Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr avec Nico. Salut Nico.
Salut.
Tu es une des chevilles ouvrières de l'entreprise Côté Cairn. Et alors là, je t'attrape à la sortie de la vigne à Barnave pour parler notamment d'une animation que vous allez faire le 3 août à la Carline. On en reparlera. Bah, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais dans Côté Cairn? Depuis combien de temps tu y es? Comment ça se passe pour toi?
Ben, je suis arrivé, revenu à Barnave, car je suis quand même ancré à Barnave et dans le Diois depuis pas mal d'années. Il y a environ 5 ou 6 ans. Donc Côté Cairn était en construction vraiment au tout début, parce que Cyril Copier et la ferme, donc Vincent Lefort et Ambise, était parti de chez Giants et ont lancé ce projet de Côté Cairn, donc construire une marque de clairette en biodynamie exclusivement pour la revente et la propagation de la biodynamie dans le monde du vin. Donc là, ça fait depuis cette année que je suis installé associé avec Vincent et Ambise sur la ferme de Barnave. Donc où on a 18 hectares de vignes, essentiellement du muscat et de la clairette, mais aussi des nouveaux projets qui seront surtout du vin rouge.
Alors, parce que oui, ça on peut repréciser, quand on est à Barnave, on est sur deux appellations. Donc il y a les appellations Clairette et Crémant de Die, mais aussi Châtillon-Diois, ce qui permet d'ouvrir notamment sur des vins tranquilles. Ouais. Et ça, c'était un peu ton délire à toi.
Ouais, bah moi, oui, je suis pas un grand buveur de Clairette, comme beaucoup de jeunes de notre génération. C'est sûr que nous, on préfère un bon petit coup de rouge ou un petit blanc à l'apéro. Et puis, c'est aussi pour diversifier l'appellation, qui est un peu en perte de vitesse, dû aussi à la négligence du syndicat et des acteurs du milieu. Donc à Barnave, on est sur l'appellation Châtillon-Diois, mais que pour les vins blancs. Donc on a déjà un domaine qui est le Cabanon de l'Aille, donc un blanc à base d'aligoté, assez frais, minéral, idéal pour l'apéro. Et là, du coup, on se lance dans des vins rouges avec plusieurs cépages.
Donc, alors pardonne-moi, mais du coup, il n'y aurait pas d'appellation rouge possible à Barnave?
Non, on est hors appellation parce que l'aire d'appellation pour les vins rouges tranquilles n'englobe que Châtillon et Saint-Romain et pas les autres villages qui ont droit à faire du blanc, donc qui sont Barnave, Minglon, Montmort et Montlore, il me semble, de tête.
Bon, on va rentrer dans le détail de l'appellation après, puisque tu as commencé à leur mettre une petite pile, et ça pourrait être intéressant de détailler un peu. Mais alors du coup, voilà, ces nouveaux projets, et alors toi, quand tu rentres dedans, tu commences par être d'abord simplement ouvrier, et à quel moment tu décides que tu vas t'installer, et du coup, explique-nous un peu les démarches.
Bah ouais, ouvrier, salarié, annualisé, je dirais, annualisé et engagé. Enfin, voilà, je me suis vraiment impliqué dans la ferme. C'est un truc qui m'a toujours botté, faire la vigne, surtout en bio, et encore plus en biodynamie. Et après, Vincent et Ambi, je les connais depuis tout gamin. Et eux, arrivant assez proche de la retraite, il y a aussi cette question de transmission qui s'est posée. Donc, ils m'ont touché un mot, j'ai réfléchi. Et puis, bon, le projet de vie dans le Diois, on n'a pas non plus 120 possibilités, donc là c'était une très belle opportunité, un sacré challenge aussi, mais qui me bottait bien, quoi.
Oui. Tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça engage pour toi là, maintenant?
Bah maintenant je suis installé depuis un mois, donc ça fait 2 ans quand même que je suis occupé à faire des papiers, des montages de sociétés, parce que, enfin voilà, on engage quand même sa personne, mais aussi du financier, et donc il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc il y a eu des études de fait en lien avec la Chambre des Cultures.
Parce que là, tu t'associes à une co-exploitation, donc forcément, ça change le statut des ouais, trois, finalement.
Oui, parce que le statut qu'ils avaient anciennement sur la ferme était un ancien statut qui n'existe plus, et du coup, on était obligé de créer une nouvelle société. Donc, il fallait faire un montage pour que la transmission de cette société-là soit la plus facile et la moins coûteuse possible pour moi. Parce qu'en tant que jeune, même si on a une dotation européenne qui nous aide à l'installation, en vigne, surtout en clairette, on n'est payé que notre vendange n'est payée que l'année d'après. Pour la plupart des acteurs qui sont Giants et les autres COP et les autres caves. Donc il y a une sacrée avance de trésorerie à amener. Et si on n'a pas l'air insolide, on fonce droit dans le mur. Quoi.
Donc là, tu prends un sacré risque.
Bah là, pas trop, parce que justement, ils ont été très gentils, mes associés. Du coup, ouais, ils m'aident pas mal et au final, la DGA va me permettre de payer mon salaire sur un an. J'ai qu'un apport de part sociale à faire, quoi. J'ai pas de rachat de terre ni rien. Ce sera la société qui sera locataire ou fermière des vignes.
Voilà, parce que ça nous permet du coup de rappeler qu'en fait, avec Côté Cairn, vous avez créé une entité qui est au-dessus de cette société, par exemple, mais qui, du coup, a une vocation plutôt coopérative en rassemblant cette société, celle de Cyril, et puis
Nathalie,
peut-être...
Et d'autres, voilà. Bah, en fait, oui, Côté Cairn, c'est vraiment un prolongement de nos sociétés. On mutualise nos raisins et on les commercialise sous la marque Côté Cairn. Donc chacun rapporte sa vendange et chacun est après acteur d'un Côté Cairn pour faire la commercialisation. Et pour ça, on a aussi embauché une commerciale qui nous suit autant côté administratif que sur les ventes et la distribution un peu plus large que le Diwa, quoi.
Nous, comme les réseaux sociaux.
Voilà. Non, puis après, nous, pour la commercialisation dans le Diwa, on peut très bien s'en occuper. Parce qu'au niveau local, on connaît bien les acteurs quand même du coin. Alors qu'après, quand il faut aller démarcher des cavistes ou des magasins bio spécialisés sur Lyon, Marseille, on n'a pas le temps à ça, quoi. Nous, on est dans les vignes.
Voilà. Et toi, Nico, justement, tu fais partie de ceux qui sont le plus dans les vignes. C'est pas toi qu'on va trop voir, finalement, en train de démarcher des magasins ou faire des livraisons je sais pas où dans la France. T'es plutôt dans la vigne. Et puis parfois, par exemple, sur les marchés, on peut te voir un petit peu à Barnave, à Minglon. Et donc là, pourquoi pas à la Carline. Alors, décris-nous un peu ce travail de vigne. Je crois que les gens, ils se rendent pas bien compte que c'est un boulot l'année.
Bah, oui, déjà, c'est un gros boulot à l'année. Et en plus, en biodynamie, on se rajoute des tâches, d'autres tâches, quoi. Donc, on fait nous-mêmes notre compost. Donc, on fait rentrer du fumier de vache qu'on va préparer avec des préparats biodynamiques. Donc, on enterre dans notre fumier. Et après, on laisse maturer ce fumier pour qu'il devienne compost au bout de 6 mois, qu'on va épandre sur nos parcelles. Suite à cet épandage de compost, on va faire ce qu'on appelle une 500. Donc c'est une préparation biodynamique qui est faite à partir de bouses de vache qu'on met dans une corne de vache enterrée pendant 6 mois dans le sol. Et cette bouse, on va la dynamiser dans de l'eau et épandre ce cocktail un peu de bactéries qui va donner une information à la terre pour qu'elle dégrade la matière organique qu'on lui a ramenée et donc qu'elle vit mieux que ce qu'elle était avant. Parce qu'en fait, la biodynamie, c'est surtout la terre qu'il faut soigner avant la plante. Si tu as une terre saine, les plantes qui vont pousser dessus seront saines.
Pourquoi les terres qui sont sous la vigne ne sont pas saines ?
Bah, dans le Diwa, comme dans les autres appellations viticoles, ça fait des années et des années qu'on traite avec des produits. Même les parcelles qui étaient traitées au cuivre, avant on traitait à 20 kg de bouillie par traitement, donc ce qui fait 5 kg de cuivre par traitement, par hectare. Et quand tu en fais 10 dans la saison, tu as mis 50 kg de cuivre en une année dans ta terre. Donc ça, sur 80 ans de viticulture... fait le calcul, ouais, voilà. Ça commence à être des grosses concentrations.
Cuivre là, qui est un antifongique.
Je parle du cuivre qui est un des moins dangereux, qui est encore autorisé en bio, mais il y a toute une polémique qui dit que le cuivre est un métal lourd, qu'il n'est pas dégradé dans le sol et que du coup... Bon, moi je suis pas convaincu. Je pense que le cuivre est bien meilleur que l'arsenic, parce qu'il y en a un paquet qui traitait à l'arsenic aussi, contre les maladies du bois ou avec d'autres molécules chimiques qu'on retrouve encore dans les sols aujourd'hui, quoi.
Et alors sinon, le reste du temps, c'est quoi ?
Et après, donc, y a cette préparation de la terre. Et après, il faut la travailler, cette terre. Donc, il y a du binage à faire. Le travail du cavaillon, donc, c'est entre les souches de vigne. Il faut enlever l'herbe qui peut concurrencer au niveau apport en eau. Donc, des heures de tracteur un peu. Après, durant toute la période de pousse végétative, on fait une taille en verre, complémentaire de la taille d'hiver pour justement avoir une belle récolte saine avec des raisins qui sont étalés pour profiter au maximum de l'air et de la ventilation qui sont les meilleurs alliés pour ne pas avoir de maladies et donc moins de traitements.
Et puis vous plantez aussi plein de choses dans les rangées.
Ouais,
souvent assez joli les vignes côté Cairn.
Ouais, on fait des engrais verts, ouais. Du coup, on fait des mélanges de semences, donc avec des variétés de graminées, de légumineuses et de crucifères qui vont travailler le sol à notre place, en fait. Les racines vont décompacter le sol, faire remonter les vers de terre en surface, et donc ça va aérer le sol et dégrader justement notre compost. Et donc, on aura une structure de sol qui sera beaucoup plus aérée et donc propice à infiltrer l'eau qu'une terre qui n'est pas travaillée et qui est tassée par les tracteurs, donc là où l'eau ruisselle et où la vigne est en perfusion constante, quoi.
Et tu parlais de la taille tout à l'heure, alors tu as quand même une formation à un moment donné qui est passée par la pépiniererie. Je ne sais pas comment ça se dit.
L'horticulture.
Voilà, merci. Et tu as ramené, il me semble que c'est toi, si je suis bien informé, qui a ramené dans Côté Cairn une nouvelle taille de la vigne.
Bah, Cyril l'a pratiqué déjà, mais moi, quand je suis arrivé à Barnave, et bon, je m'étais déjà renseigné un peu avant, mais c'est sûr que les méthodes de taille un peu classiques, comme le guyot, font faire plein d'erreurs et de plaies de taille qui vont blesser la vigne à vie. Elle va avoir des amputations, quoi, comme si nous, on nous coupait une main une année, l'année d'après.
On pourrait préciser, d'ailleurs, parce que ça, les gens ne le savent pas, peut-être ça peut aider quand on taille son arbre chez soi, mais quand on coupe trop près, il y a une partie du tronc qui lui-même...
qui nécrose, oui. Ouais.
Qui empêche du
toute plaie de taille fait un cône, ce qu'on appelle un cône de dessèchement, dans les vaisseaux du bois. Et du coup, ça fait que ça repousse beaucoup moins. Et surtout, ça fait des nécroses dans le bois où il y a un champignon de la vigne qui se met dedans.
Ouais, qui commence à être bien connu.
Qui s'appelle l'esca. Et qui, du coup, après, émet des toxines dans la sève du bois et tue dans le cœur de la souche. Le pied de vigne. Donc toutes les vignes là maintenant d'il y a une trentaine d'années qui ont été un peu sabrées, comme on a de très grosses mortalités. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la greffe industrialisée en oméga qui fait qu'on a des plants qui sont de beaucoup moins résistants
déjà
à leur naissance. Quoi. Ouais.
Alors, l'esca, juste au passage, c'est quand même, ça crée une grosse polémique aujourd'hui dans la viticulture, puisqu'en fait, on demanderait même au bio de traiter de manière chimique pour le faire disparaître. Donc cette taille, tu peux nous la citer et qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Bah, ouais, il y a encore 10 ans, les bio, ils traitaient encore avec des produits vraiment. Des fongicides qui pénètrent dans le bois, quoi. Pour,
c'est les 0,5% autorisés dans le bureau.
Ouais, voilà. Mais maintenant, ils vont plus loin. Mais ouais, du coup, nous, on a mis en place une taille que Cyril pratiquait déjà sur ses vignes, qui est le guyot-poussard, qui fait qu'on on fait 2 flux de sève sur le pied pour justement que la souche soit vivante des deux côtés. Et que même si elle nécrose, donc si le bois meurt et pourrit par la suite, parce que du bois mort, forcément pourrit par la suite, et ben qui est quand même ces deux vaisseaux de vie de chaque côté de la souche. Et pour ça, on va tailler nos porteurs, donc qui sont des rameaux taillés à deux bourgeons pour la taille de l'année prochaine, de l'année d'après. À chaque fois sur le flux de sève et mettre la baguette qui porte la vendange et donc la production de l'année après ce porteur. Donc les plaies de taille, quand on coupe la baguette l'hiver, elles sont toujours après notre futur flux de sève. Donc on a des flux de sève qui ne sont jamais entravés par aucune plaie de taille. Donc ça fait que la vigne se porte beaucoup mieux. Et là, moi, en 5 ans, on a pas encore de moitié, mais diminué de 40% le nombre de remplaçants, donc de souches qui meurent par an. Ouais.
C'est toute une période où il faut faire plein de trous et virer tout ça, d'ailleurs.
Donc déjà, en temps, c'est très chronophage. Et puis financièrement, un plant de vigne, ça coûte quand même 1,50€, 1,60€.
Ça met 5 ans à être rentable.
Ça met 5 ans, t'es gentil. Des fois, dans certaines vignes, ils mettent 10 ans avant d'avoir une récolte. Et, ouais, et puis, ça demande un temps fou. Ouais. Donc, ouais, on a des très beaux résultats. Et après, je pense que c'est quand même un mélange de tout ça, quoi. La taille, la différence, le changement de taille. L'utilisation de la biodynamie fait que dans ton vignoble, il est quand même plus résistant. On a utilisé des préparats un peu spécifiques pour justement cicatriser les plaies de taille, ce qui fait aussi que la vigne se bat. Elle est plus résistante à l'esca, quoi.
Tu as parlé tout à l'heure des appellations. Alors, on peut se la poser la question, mais pourquoi est-ce que la clairette dégringole comme ça?
Bah, dans tous les cas, la clairette, ça reste un vin festif.
Vous avez pris une grosse claque avec le Covid, par exemple.
Ah oui, là, ouais, ça fait mal. Ouais. Bah oui, la clairette, tu la bois quand tu fais une fête de famille, un mariage.
Avec plein de gens, quoi.
Avec plein de gens. Donc là, ta bouteille de rouge ou ta bière, tu peux la boire tout seul dans ton canapé devant ta télé, mais tu bois moins facilement une bouteille de clairette. Donc oui, pendant le Covid, c'était très compliqué, mais en général, le marché de la clairette en baisse quand même depuis 5 ans, parce que les mœurs changent, qu'on a du Prosecco qui arrive d'Italie à 3,50€, mais aussi parce que les acteurs de la clairette, à mon avis, je ne suis pas le seul, n'ont pas fait le boulot... pour redorer le blason de ce magnifique vin et le promouvoir, rien que ce serait localement, quoi.
C'est-à-dire qu'il aurait fallu partir dans des campagnes marketing plus importantes.
Par exemple, ou pas vendre de la clairette bio à 4,50€ en grande surface, quoi. Si tu veux garder un peu de légitimité sur la qualité d'un produit, si tu le vends à bas prix, les gens, pour eux, ça devient moins bon. Quoi.
Ouais. C'est vrai que la clairette, en plus, jouit un peu de cette réputation depuis quasiment toujours. C'est l'espèce de champagne pour pauvres, etc. Est-ce que ça aurait pu être facile de s'en sortir par le prix, justement, tu parles, mais...
Non, c'est pas facile du tout, non, parce qu'il faut quand même... Puis il y en a d'autres, des vins pétillants, qui pour eux aussi, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y en a certains qui... par le marketing et par un syndicat fort qui soutient ses viticulteurs et qui est plus actif et qui s'en sortent mieux, quoi.
Et tu parlais tout à l'heure de cette appellation Châtillon-Andivois. Est-ce que c'est possible de l'étendre sur d'autres villages? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que c'est ces projets de vin rouge?
Bah après, moi, je ne suis pas non plus un fervent défenseur pour élargir l'appellation, parce qu'une appellation, ça reste quand même assez... Enfin, c'est pour défendre un terroir, un produit, et ça, tu arrives aussi à garder du coup la qualité et la maîtrise de ce que tu fais, quoi. Bon, après, l'appellation de Châtillon-Andivois, c'est une des plus petites de France, elle est inconnue de tout le monde. Est-ce que de l'agrandir géographiquement, ça n'aurait pas boosté un peu les ventes et du coup la renommée de l'appellation? Certainement. Mais du coup, nous, là, vu qu'on est hors zone géographique, on va faire nos vins rouges en cuvée 20 pays. Donc 20 de France en biodynamie. Mais de toute façon, quand on voit le nombre de vins nature qui sont hors appellation, et pourtant les mecs qui sont dans des appellations ultra connues, quoi, ils pourraient vraiment utiliser le nombre d'appellations pour vendre. Mais quand tu fais des petites cuvées comme ça, local d'un truc un peu particulier, autant se détacher de l'appellation et puis jouer sur justement cette originalité.
Alors Nico, tu viens de dire particulier, c'est quoi comme cépage ?
Alors il y a...
Faut peut-être pas le dire.
Si, attends,
ah bon,
on est fiers.
Ah bon.
Alors, il y a 2 ans, on a planté, il y a 3 ans, donc là, première vendange, septembre 2020, peut-être même fin août, de Gamay et Pinot à Barnave et de Sierra sur Die. Donc on trouvera les bouteilles mai-juin 2021 à peu près. Et on a aussi planté du Mollard, qui est un cépage endémique des Hautes-Alpes, qu'on a fait multiplier par notre pépiniériste. Donc là, on aura des bouteilles dans 2 ans. Donc il faut savoir que ces pages-là, il n'y en a que 60 hectares environ en France. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Bah, parce qu'il avait quasiment disparu et qu'il n'y avait plus que quelques vieilles vignes où il y avait quelques pieds qui traînaient. Et il y a un viticulteur qui est dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle Allemand, le domaine allemand, qui a justement voulu faire renaître ce cépage. Et donc qui a multiplié... au fur et à mesure des années, les plants, et du coup, là, il en a commercialisé, donc il y a de plus en plus de personnes qui en plantent là-bas. Ouais. Après, du coup, c'est chouette, quoi, de faire des petites cuvées comme ça. Et on a aussi, là, pour projet printemps 2021, enfin, projet, non, c'est déjà fait, le terrain est prêt, les plants sont en pépinière, de planter du fenat, qui est lui le cépage endémique du Diwa. Donc là, il n'y en a vraiment quasiment plus.
Alors vous l'avez retrouvé comment ce truc ? Vas-y, raconte-nous un peu.
Bah, y a quelques vignes dans le Diwa où il y en a encore, sur Châtillon, mais aussi sur Saint-Benoît, Aurel. Mais là, c'est un pépiniériste qui en avait quelques plants en collection chez lui. Et du coup, on lui a demandé de nous faire des plants, quoi. Donc là, il en a, normalement, il en aura environ 1200. Donc ça ne va pas faire non plus une grande cuvée, mais les Diwa pourront le goûter. Quoi.
Mais du coup, c'est quand même officiellement, ça va devenir la première et la seule vigne exploitée de Fenat du Diwa.
Bah, une des premières, ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup à la mode avec les vins nature. Les gens sont à la recherche justement de rareté. De petites quilles originales.
Et tu sais quel goût ça a ou...
Bah non, justement. Oh, autant c'est de la piquette.
Vous avez pas peur, ouais, c'est ça.
Non, mais dans tous les cas, ouais. Il faudra goûter le raisin avec notre œnologue pour.
Tu peux le citer, d'ailleurs, cet œnologue.
Donc, notre œnologue, donc nous, avec côté Kern, quand on est sorti de chez Giants, un peu en panique et au pied du mur. On a trouvé un partenaire, du coup, depuis 5 ans, qui a voulu se lancer le défi de faire une vinification avec nous. Et donc, c'est Manger Granon à Vercheny. Donc, l'œnologue, c'est Rémi Granon, qui, lui, du coup, bosse beaucoup sur de la clairette et des effervescents. Et là, il est tout content d'avoir des vins tranquilles à travailler, parce qu'il aime bien ça aussi.
Donc ça plaît à tout le monde, cette histoire.
Bah ouais, puis ça fait des nouveaux challenges, quoi, comme tu dis. C'est un vin qu'on a, enfin un raisin qu'on n'a jamais trop goûté et certainement pas bu. Donc du coup, ouais. Et puis il faut se diversifier, parce que c'est assez dangereux quand même de rester ancré que dans du muscat pour faire de la clairette quand on voit la conjoncture économique. Ouais, vaut mieux agrandir un peu sa gamme.
On va quand même se rappeler un peu toute cette gamme.
Alors, on a eu une clairette tradition, méthode ancestrale qui est connue de tous dans le Diwa. Donc muscat à 85-90% selon les années. Et après, c'est la clairette blanche. Donc une clairette tout en fraîcheur.
Oui, avec un objectif quasi sans sucre au goût, on dirait.
Bah, il y en a quand même. Hein,
ouais, en
parce
fait,
que, mais ouais, ouais, elle paraît beaucoup moins sucrée. Ouais. C'est pas mal de retours qu'on a comme ça. Mais ça, c'est parce que mon Gigranon travaille bien aussi et parce qu'on leur amène des beaux raisins. Et donc, en complément de cette clairette tradition, là, depuis cette année, on a une cuvée Gipaète, donc qui est une tradition sans sulfite. Donc, dans la clairette tradition normale, on en met, mais toujours dans le cahier des charges d'émetteur. Donc, c'est vraiment des doses pas assez élevées pour donner un mal de tête, quoi. Parce que souvent, on dit que la clairette donne mal à la tête, mais...
Que le sulfite, en tout cas.
Ouais, le sulfite donne mal à la tête, oui. Et c'est sûr que... Avant, il y a 20 ans, il y a même 30 ans, tous les vins étaient sulfités à mort. Donc quand on en abuse, la clairette plus le sucre et les bulles. Ouais. Et donc là, ouais, la Gipaète sans sulfite qui marche très bien et qui, vraiment, ça nous étonne encore, est complètement différente de la clairette tradition. Après, ça vient du fait que les raisins viennent de certaines vignes. Et du coup, ils n'ont certainement pas le même goût. Mais on peut aussi se poser la question du est-ce que le sulfitage ne transformerait pas peut-être un peu le goût ? Non,
vous n'avez pas assez de recul, mais non, mais c'est bien. Attends, c'est une super idée. Est-ce que du coup, c'est une sélection, genre quand même une cuvée un peu spéciale de raisins un peu plus.
Bah, les raisins, pour faire du sans sulfite, déjà, il ne faut pas prendre de risque du tout. Donc il faut que la vendange soit la plus belle possible. Donc oui, c'est.
Des cuves. Pas que ça s'oxyde. Enfin,
ouais,
ça
voilà. Et ça doit être les jus les plus clairs possibles. Et où l'œnologue est sûr de ne pas avoir de déviance par cette prise de risque de ne pas mettre de sulfite, quoi. Qui permettent de stériliser un peu le vin. Et du coup, même si c'est un peu limite des fois, tu fais quand même des beaux trucs grâce au sulfite. Ouais.
Ça pourrait être un objectif 100%, ça ?
Clairette sans sulfite.
Bah, je pense pas quand même, parce qu'il faut pas trop jouer avec le feu non plus. Moi, je suis... Enfin, il faut faire attention, quoi.
Mais... Tu nous as raconté ta prise de risque tout à l'heure, alors bon.
Donc après ça, on a un crément, donc une méthode qu'on dit champenoise, donc, mais pas avec les mêmes cépages. Là, c'est fait avec de la clairette et un petit peu d'aligoté pour faire la liqueur d'expédition. Donc ça nous donne un crément plus fruité que ce qu'on a l'habitude de boire, un peu moins sec, mais c'est ce qu'on recherchait, d'avoir quelque chose d'un peu plus élégant, moins brut, et il est plutôt
coup,
réussi.
Donc du coup, tu n'as pas envie de transformer, forcément.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on met du crément, on met toujours une crème de quelque chose, on se fait un cocktail.
Je vois les gens qui en achètent chez nous... ils le boivent plutôt nature qu'avec un qu'en mode kir, quoi. Et après ce crément, on a un blanc tranquille qui est le cabanon de l'ail. Donc c'est une parcelle de Barnave. Donc là, donc c'est une sélection parcellaire d'aligoté. Donc l'aligoté qui est un cépage bourguignon du Chablis. Et qui là s'exprime assez différemment, donc plus sur la minéralité, sur un côté floral qu'acidulé. Mais il y a toujours cette petite pointe d'agrumes, mais très intéressant.
Alors lui, il part très vite, hein.
Il part très vite, mais j'en aurai quand même lundi à la Carline, donc pour ceux qui aiment. Donc après, là, on a commencé à faire du jus de raisin aussi, vu qu'on en a beaucoup autant en faire, et puis que c'est tellement bon, le jus de raisin, pour nos minots. Et par contre, là, j'en aurai plus lundi, parce qu'il part très vite.
Ça, c'est un 100% clairette. Hein.
Il y a un peu de muscat dedans, là, cette année. La première année, on avait fait un 100% clairette, et là, on met du muscat. Ouais. Ça fait un peu plus de sucre, mais du coup, on le ramasse moins mûr que le muscat pour faire la clairette, ce qui fait qu'il est un peu moins sucré. Donc, ça fait un bon mélange. Et donc plus tard, on aura ces...
Vous avez un nom pour ce rouge, déjà, le premier?
C'est dans les tuyaux, ouais. Mmh. Ouais, je ne vais pas dévoiler quand même tout.
On en reparlera.
Ouais. On refera une émission pour le lancement de la cuvée. Mais ouais, cette année, on aura une bouteille avec trois cépages. Mais à l'avenir, on va essayer de diversifier, de faire un peu des monocépages ou des petits assemblages, mais ouais, d'essayer de faire plusieurs bouteilles. Ouais.
Avec Côté Cairn sur Erdioa, Nico, donc il y a une animation qui va se passer le 3 août, lundi, à la Carline. À quelle heure? Qu'est-ce que c'est?
Alors, la Carline, je crois qu'ils ouvrent à 14h30 l'après-midi. Bon, ils annoncent vraiment super chaud, donc je pense que je vais y aller vers 16h. Mais ouais, de 16h à la fermeture, je serai à l'extérieur, devant la Carline, parasol, glacière, clairette fraîche. Et puis, ouais, tout l'après-midi. Et vous retrouvez toute notre gamme de bouteilles à la Carline, qui est notre partenaire préféré, privilégié,
historique,
premier, de dit, ouais.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est vraiment de la déguste? Ce sera aussi l'occasion peut-être de parler encore?
Oui, bah voilà, ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, la déguste. Et puis bon, on est quand même fin juillet à dit. Je pense qu'il y a triple population, même à la Carline, quoi.
Et toi, tu sais balbutier le hollandais en plus, c'est bien.
Ouais, ça c'est pratique. Ouais.
Tu veux inviter les gens hollandais à venir lundi à la Carline?
Eh ben ouais, je peux appeler mes compatriotes et puis les voisins bataves. Donc, ik nodig al de Hollanders en Belgen uit aan de winkel La Carline, rue du Viaduc, in die, voor onze wijnen komen te proeven. Dus dat zal maandag zijn van 16 tot 7:30 ongeveer. En je bent allemaal welkom.
Ça, c'est cool. Et puis, est-ce que tu peux nous sortir tous les supports de com que vous avez? Où est-ce qu'on peut vous trouver, vous suivre?
Bah, déjà, la première com, c'est quand même nos revendeurs. Donc, niveau local, Carline, épicerie centrale, la confiserie Achard et Verdurant, les caveaux de Die, de Barnave. D'ailleurs, au caveau de Barnave, en ce moment, il y a une exposition d'une copine du village qui fait de la ferronnerie d'art. Donc, c'est que des œuvres uniques, surtout des lampes, chez nous, quoi. Et après, il y a son catalogue qui est dispo, et c'est vraiment chouette.
Et c'est pas la première année, d'ailleurs, qu'il y a des expos dans le caveau.
Ouais, bah, on essaye toujours de l'embellir un peu, quoi. Donc, on a même des demandes de gens, des fois, qui veulent poser leurs tableaux, leurs photos... Et donc là, c'est de la sculpture. Il y en avait déjà eu, de la sculpture aussi. C'est toujours sympa, quoi. Après, nos revendeurs, on a aussi la goguette mobile sur le marché, le Café Délices et les magasins 8 à 8 de Châtillon et Luc, et le Troquet mobile, tout récent dans le secteur. On a aussi une page Facebook, donc sur le nom Côté Cairn. Et un compte Instagram aussi, depuis pas longtemps. Et ça, c'est notre commercial qui est bien branché, Et le site internet, vous tapez Côté Cairn, vous tombez direct dessus. Où là, vous avez une carte très bien décrite avec tous nos points de vente en France. Donc il commence à y en avoir quand même pas mal. Il y a des petits points de partout. Et les quelques colportins qui sont basés à différents endroits et qui se font livrer et redistribuent notre clairette. Donc en Alsace, en Bretagne, il y a du monde, quoi. Côté Cairn est partout.
À l'étranger?
À l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà par tous les...
Il n'y a pas de colportin étranger, quoi.
Non, pas encore. Moi, j'ai mon père qui fait des fois une petite livraison en Belgique, mais...
C'est rare.
Ouais, c'est rare. Non, après, oui, on a un distributeur qui en a pris pour l'Allemagne. Donc, c'est en voie de développement, quoi. On y pense aussi, ouais, à l'export. Parce qu'au final, avec les trois fermes, on a quand même pas de 100 000 cols à passer. Donc, il faut qu'on se bouge.
Merci Nico.
Ben, merci à toi.
Et rendez-vous donc le 3 août, lundi, devant la Carline à partir de 16h pour déguster les produits côté Cairn.
Bientôt. Ben oui, à bientôt. Merci beaucoup.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.